fallait, pendant cette crise, inventer constamment de nouveaux instruments, des instruments de rescousse, des instruments de sauvetage. L'invention de ces nouveaux instruments, évidemment, ne pouvait être faite que par les chefs d'État et de gouvernement et par les États, puisqu'il fallait, dans l'urgence, décider de la création de choses tout à fait nouvelles, et d'ailleurs assez fondamentales, assez importantes. Et le Parlement européen, par sa nature, peut éventuellement proposer des mesures de ce type, mais n'a pas du tout le pouvoir de les mettre en place. Après, quand on regarde le détail des mesures qui ont été prises sur l'union bancaire, sur la réforme de ce qu'on appelle la gouvernance de la zone euro, mais là-dessus, chaque fois qu'il fallait voter un texte législatif, certains députés européens ont joué un rôle tout à fait considérable en disant non à ce qui était dans certains cas les propositions de la Commission ou les souhaits d'une majorité du gouvernement, et des négociations se sont engagées. Donc si on regarde le détail des résultats, oui, le Parlement a joué un rôle, mais ce sont des questions d'une telle technicité, ce sont des questions si complexes que cela n'est même pas vu par l'ensemble des citoyens.
Est-ce que le vrai problème de l'Europe aujourd'hui n'est pas un problème de communication sur son propre fonctionnement ?
Oui et non. Certes, puisque tous les efforts de communication dans le passé n'ont pas suffi à rendre transparent, crédible ou suffisamment rassurant le fonctionnement de l'Union européenne. Donc ça, c'est pour le oui. Pour le non, le problème n'est pas un problème de communication, ou plutôt le problème de communication reflète un problème de nature. Les hommes et les femmes politiques de l'Europe, les partis politiques européens et les citoyens européens par leur vote, notamment lors de référendums, ont tous contribué à ce que l'Union européenne soit, je crois qu'on peut le dire, le système de gouvernement le plus complexe jamais mis en place sur la planète Terre. Ce qui veut dire que expliquer l'Europe, c'est se lancer dans un exposé qui ne peut pas être de 5 minutes, qui par nature est lui-même si complexe et si long que toute la difficulté de la communication vient de cela. C'est une organisation du pouvoir profondément atypique. Les gens, évidemment, décrochent.
Quels sont les grands chantiers qui attendent le prochain Parlement ?
Le premier grand chantier, c'est en quelque sorte un chantier de mise en œuvre. Il va falloir essayer de faire fonctionner et vivre ce nouveau mode de gouvernement, notamment pour ce qui est de la question ô combien sensible de la gestion des finances publiques, qui est née de la crise et qui, à mon sens, va être très difficile à faire fonctionner. Donc là, le Parlement aura un rôle de contrôle, d'interpellation des autorités européennes, de la Commission notamment, et dans certains cas, un rôle de co-législateur s'il s'agit de faire évoluer ce cadre juridique. Il y aura ensuite la gestion immédiate du résultat des élections européennes. Il y aura une bataille politique qui va s'engager après l'élection pour voir comment est nommé le président de la Commission. On va voir si le Parlement gagne ou si ce sont les chefs des exécutifs nationaux qui gardent les choses en main. Autre question importante, évidemment, la gestion de ce qui sera certainement politique par la majorité du Parlement européen, de ce qui sera une représentation plus forte au Parlement, même s'il restera nettement minoritaire, de députés d'obédience eurosceptique ou europhobe. Rien que ces trois sujets sont importants pour le présent et pour le futur.
Autre enjeu important à l'échelle européenne, la question de la jeunesse. Est-ce que, personnellement, vous avez l'impression que les jeunes générations aujourd'hui en Europe sont moins europhiles qu'avant ?
On le dit toujours, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que la génération EasyJet, est-ce que la génération Facebook est moins européenne que ses précédentes ? Très honnêtement, je ne le crois pas. Je pense par contre qu'il y a certainement une tendance chez certains à considérer que l'intégration européenne est une espèce d'acquis. C'est comme un jardin en quelque sorte qui n'aurait plus besoin de beaucoup de soins, qui est là en quelque sorte naturellement, dans lequel on peut se promener sans avoir besoin ni de l'arroser, ni de tailler les plantes. Chaque jardinier sait que ces jardins-là n'existent pas. Que le jardin, qui peut paraître pérenne, est en réalité une chose fragile qui demande un soin et un entretien constant, parce que sinon le jardin, en quelque sorte, régresse. Il peut devenir une jungle désagréable. Trop de jeunes aujourd'hui n'ont pas assez conscience que l'Union européenne demande déjà un soin et un engagement. L'Europe agit, a fait des choses, mais on ne peut que l'inciter à faire plus et à faire plus vite.